d'expérience, ça m'est arrivé une fois d'arriver et de déployer une version chez un client. Et le client, du moins, manque de communication avec mon PO à ce moment-là. Il fallait déployer seulement un élément. Fait qu'il fallait faire un petit cherry pick. Fait que déployer une feature. Par contre, j'ai pris l'entièreté de ce qu'on avait développé sur l'environnement de test et j'ai envoyé ça en production. Il n'y a pas eu de problème à ce moment-là parce que ça avait été bien testé, ça avait
Ah,
été
c'était
bien
bon.
fait. Oui, parce que je suis extraordinaire. Exact. Mais malgré tout, ça a créé un irritant chez le partenaire parce que, bon, eux autres, ils avaient prévu une session de formation avec leurs utilisateurs et là, c'était un nouveau module de recherche qu'on avait déployé. Fait que là, ça a un peu mis tout le monde sur le spot. Par contre, là, au courant du développement, on avait le power user, ben, les power users avec qui on avait fait les démonstrations, fait qu'ils étaient déjà au courant de comment ça allait fonctionner, fait qu'ils ont pu s'arranger là, pour se revirer sur un dixième. Par contre, c'est vraiment pas l'idéal d'arriver avec le client puis faire oups. T'sais, le hotfix que tu me demandais, ben, j'ai tout déployé finalement, là, fait que c'est pas tout à fait le genre de choses qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, dans les pratiques, ben, on a nos releases, on envoie ça au client, voici ce qu'on déploie à telle heure, à telle date. Fait que là, le client est au courant de qu'est-ce qui s'en vient, quand, puis comment est-ce qu'on va faire ça.
Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2ceo.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. De retour au podcast Pivot cette semaine, accompagné de mon collègue et bon ami Olivier Issaterrien, qui est développeur full stack chez OpenMind Dev2CO et Legacy Recoding. Olivier, bienvenue encore une fois sur le podcast. Merci d'être avec nous. Comment vas-tu ce matin?
Bien, ça va bien. Toujours un plaisir de faire partie des enregistrements. C'est toujours bien plaisant et agréable.
On aime beaucoup te recevoir. Aujourd'hui, on va parler plus technique qu'à l'habitude. Donc, cet épisode s'adresse plus aux équipes de développeurs, les chargés de projet, les product owners ou les dirigeants qui sont un peu plus sur un aspect techno, là, qui veulent aller un petit peu plus en détail. On a fait déjà quelques épisodes sur le sujet, mais un peu plus à haut niveau. Donc, je réfère entre autres à ces épisodes-là. Le premier épisode, je vous invite à écouter par rapport au déploiement. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un déploiement et c'est quoi les lexiques, dans le fond, l'ABC d'un déploiement en production au niveau des risques, l'implication et les catégories, l'épisode 65 du podcast Pivot. Et on a également, à l'épisode 32, on a donné 7 conseils pratiques pour une mise en production réussie de votre application. Donc, plus quand il y a un énorme go live à faire. Donc, comment bien enrober là, en dehors du côté technique pour s'assurer qu'il y ait le plus de fluidité là, dans la mise en route du système. Aujourd'hui, comme je disais, on parle plus technique. On va vous dévoiler nos 10 étapes essentielles que nous, on fait chez OpenMind, Dev2CO et Legacy Recoding pour réussir nos déploiements avec nos clients et dans nos projets. Ça provient de nos bientôt 20 ans d'expérience. Donc, c'est beaucoup d'erreurs qu'on a faites à travers le temps, beaucoup de problématiques qu'on a vécues, qu'on a bâties à ce moment-là, un peu une checklist à ce moment-là qui nous permet d'augmenter le niveau de qualité dans les déploiements. Donc, on vous invite fortement à vous en inspirer si vous avez des équipes de développement en main. Donc, si vous avez des équipes de développement dans votre entreprise. Donc, c'est une de nos prémisses aussi chez OpenMind, Dev2CO, Legacy Recoding, de montrer un peu à tous ce qu'on fait pour élever les standards de développement, même si ce n'est pas nous à l'interne qui vous accompagnons, si on peut aider à élever, dans le fond, vos équipes à l'interne, bien, tant mieux, inspirez-vous un petit peu de ce qu'on fait. Et si vous faites des choses mieux que nous, n'hésitez pas à nous l'envoyer, ça va nous aider à ce moment-là à élever encore plus notre pratique. On aime s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour vos équipes à l'interne, soit envoyer ce podcast-là ou on vous réfère également à notre blog disponible sur openmindt.com. On a un article de blog qui est les 10 étapes essentielles pour réussir son déploiement, qui est un petit peu le contenu du podcast d'aujourd'hui. Vous allez retrouver également le lien dans la description de l'épisode présente pour vous rendre plus facilement sur cet article de blog qu'on vous invite à envoyer à vos collègues qui sont un petit peu plus techniques. Donc, on démarre le sujet, Olivier. Donc, avant même de descendre les 10 étapes essentielles que nous, on voit, il y a certains éléments ou prérequis à prévoir là, avant de descendre cette fameuse liste-là. Olivier, peux-tu nous en parler?
Ben oui, tout à fait. Là. Puis il y a certains points qui vont revenir plus tard, plus en détail, là, mais on va y aller avec les prérequis là, avant même de penser à faire un déploiement. Ben, étape numéro un, c'est de le prévoir d'avance dans le temps. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se prévoit une fenêtre de 40 heures ouvrable pour préparer le déploiement. Puis la raison derrière ça, c'est juste pour ça permet de clarifier qui est-ce qui doit être présent puis pour quelle raison. Fait qu'admettons qu'on a besoin du service DevOps, le service MSP, il y a un third party qui doit être avisé. Ça nous permet de faire un peu la liste de tout ça puis d'aviser tout le monde là, pour dire qu'on va faire une nouvelle mise en ligne par rapport à ça. Ensuite de ça, dans ces 48 heures-là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient clarifier les rôles de qui est-ce qui fait quoi. Donc, tous les intervenants, là, que ce soit le développeur qui va déployer, la personne en backup, le PO, etc. Là, fait que ça vient dire un peu qui est-ce qui doit être présent, pourquoi est-ce qu'il doit être là puis c'est quoi les attentes. Là. Fait que quand tout le monde arrive dans la rencontre pour faire le déploiement, bien, c'est clair là, qui est-ce qui fait quoi.
Et il faut rajouter là-dedans aussi qu'il y a la partie client et utilisateur. Dans cette fenêtre-là, ça nous permet vraiment de bien s'arrimer et d'aviser qui on a besoin de l'autre côté et peut-être de préparer les utilisateurs à travers tout ça. Fait qu'il y a effectivement le côté technique à l'interne de comment on s'organise pour que ce soit le plus fluide possible avec des intervenants autres, mais il y a l'aspect client puis il y a l'aspect utilisateur aussi qui nous permet d'être imbriqués dans cette partie-là. Et ça, il faut le prévoir à l'avance et s'arrimer avec tout le monde et clarifier les rôles, là.
Ben oui, tout à fait. Là. Puis, c'est sûr que dans un déploiement, on va le client est avisé plutôt 40 heures d'avance qu'on prévoit faire un déploiement à une date X, mais quand on est prêt, on se donne un autre buffer additionnel là, de 2 journées ouvrables là, pour être sûr que parfait, on est tout prêt. On sait que ça s'en vient, puis on va le faire, puis il va y avoir une nouvelle mise en ligne qui va procéder.
Et chaque déploiement comporte un risque que ça ne se passe pas comme on veut. Donc, ça se peut qu'on ait à prendre une décision de faire ce qu'on appelle un rollback, donc de retourner en arrière sur le code qui a été déployé ou sur la base de données. Donc, il faut s'assurer qu'on ait nommé c'est qui cette personne-là qui va prendre la fameuse décision de faire un rollback si jamais on doit le faire. Donc, qui est normalement cette personne-là qui devrait être impliquée et devrait-elle être toujours disponible et là pendant le déploiement? Là?
Bien, tout à fait. Là, nous, on a nommé le Product Owner, fait que notre PO qui est avec nous durant le déploiement puis qui vient prendre la décision, considérant que c'est cette personne-là qui représente le client dans l'équipe, bien, c'est cette personne-là qui va juger de voir le correctif ou du moins l'anomalie qu'on voit en production en ce moment. Est-ce que ça vient causer une grande dégradation du système? C'est un peu une équipe qui vient, une décision qui revient en équipe. Par contre, la personne qui tranche, c'est le PO, puis c'est cette personne-là qui va dire s'il y a une anomalie, de prendre la décision de rollbacker ou non. C'est sûr que le client est toujours avisé là, de voir c'est quoi l'impact de cette anomalie-là, qu'est-ce qu'il y en a. Parfois, le client va nous dire hey, je suis prêt à vivre avec ça, prévoyez un déploiement ou un correctif là, pour le lendemain ou le surlendemain, le plus rapidement possible habituellement. Mais habituellement, c'est comme ça qu'on va procéder.
Puis c'est important cette partie-là parce que si ce n'est pas clairement défini, ce qu'on a déjà vu par le passé, des fois c'est le développeur qui décidait s'il fallait faire un rollback ou pas, mais le développeur n'a pas une bonne vue souvent de l'impact réel opérationnel chez le client, des dollars que ça coûte à ce moment-là de faire ou non un rollback quand il y a une problématique. Donc le PO est vraiment là, la personne qui représente le client, la personne qui connaît le plus la réalité du client, qui est en contact avec le client. Puis généralement, c'est la voix du client au bout de la ligne. Donc c'est important que cette personne-là soit présente et disponible pour le déploiement. Et c'est un peu le capitaine du bateau de dire si on fait un 180 degrés puis on retourne au port initial quand il y a une tempête qui se lève à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Ensuite, on a quelque chose au niveau des développeurs seniors, juniors, les binômes. Peux-tu nous parler de ça un petit peu, Olivier?
Ben oui, c'est sûr que quand on fait déploiement, c'est quand même un processus qui est critique là, dans le cycle de développement. Donc, on s'assure d'avoir une personne d'expérience qui est là pour épauler la personne qui va déployer. Puis, on s'assure d'avoir un binôme aussi. Là, puis, qu'est-ce qu'on veut dire un binôme? C'est une deuxième personne qui est là pour accompagner pour, encore une fois, s'il y a quelconque anomalie, de juste être deux pour brainstormer les potentiels risques de problèmes. Tu sais, admettons, on a oublié de rouler une migration, de configurer, d'ajouter une nouvelle clé dans la configuration, de changer une configuration là, qui viendrait altérer le comportement de la production. Ben, tu sais, c'est juste que ça permet de ne pas être tout seul, disons, dans ton problème. Là. Fait que quand on est deux, c'est au plus facile. Aussi, un membre du DevOps, là, vu que le DevOps est souvent en contact avec nous, puis c'est eux autres qui viennent créer des outils pour les devs là, pour que ce soit plus facile de faire le développement. Soit ils peuvent aussi être au courant de comment est-ce que les communications entre les divers systèmes sont faites. Là, fait qu'ils peuvent aussi nous aider de ce côté-là.
Et le côté intéressant d'être en binôme, c'est que c'est pas juste une personne unique qui finit par connaître les enjeux du projet lors des déploiements, c'est qu'il y a deux personnes. Donc, on ajoute un aspect résilience à travers le temps. Ça coûte un petit peu plus cher au début parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait deux personnes sur le cas, mais on gagne en vélocité après. Et si on se fie à la statistique, exemple de chez Apple, le nombre d'années de rétention moyenne d'un employé chez Apple, qui généralement, on se dirait Apple, c'est eux autres qui vont garder leur équipe le plus longtemps possible, bien, c'est 1,6 années et les gens tournent après ça. Et c'est impossible de se dire qu'une compagnie ici québécoise soit capable de garder l'entièreté de ses joueurs pendant 20 ans si un Apple de ce monde lui-même n'est pas capable. Donc, il faut quand même créer une résilience là-dedans dans la connaissance du déploiement et des enjeux qui viennent avec. Donc, être en binôme vient sécuriser le client sur cet aspect-là et surtout diminuer les possibilités de problèmes s'il y a une rotation de joueurs dans l'équipe qui travaille sur le projet au bout de la ligne. Donc, il y a cet aspect-là qui est important à garder dans le côté binôme, entre autres dans l'aspect déploiement. Dernier point avant qu'on tombe vraiment dans la liste des 10 étapes là, que nous, on suit. Il y a une question vraiment de confirmer quel module qui va être impacté afin d'identifier les risques puis de mieux informer le client sur tout ce qui pourrait s'en venir en avant. Donc, j'imagine ça, Olivier, c'est un petit peu plus le PO que ce rôle-là ou c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe?
En fait, c'est vraiment dans la phase de développement qu'on vient dire, OK, parfait, là, voici qu'est-ce qu'on souhaite développer et déployer à la fin du sprint, admettons. Bien là, on vient cibler les modules qui vont être impactés. Puis admettons qu'on aurait un module qui vient toucher à un système tierce de facturation, admettons, chez Uniclia, c'est déjà vu. Bien, s'assurer que si on touche à ce module-là, qui pourrait impacter potentiellement le module de facturation, qui est un processus critique chez le client, bien, il faut être en mesure d'identifier les modules qui vont être impactés. Puis ça nous permet un peu de faire la gestion des risques, des attentes. Ça nous permet aussi de venir cibler, OK, parfait, on travaille sur un module X, mais les modules A et B vont être impactés, mais de mieux cibler les tests là, qu'on va venir faire là, avant même de déployer, puis, etc.
Donc, mieux vaut être deux fois prudent que d'être pris devant le fait accompli qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on pensait ou qui a un impact plus loin ou plus grand que prévu au bout de la ligne.
Tout à fait.
Donc, question d'être prudent, on tombe dans les 10 étapes. La première étape est une question de prudence. Bien, c'est tous une question de prudence, mais l'étape numéro 1, Olivier, ce serait de relire la documentation. On t'écoute.
Ben oui, puis tu me fais rire en disant qu'ils sont tous des questions de prudence parce qu'effectivement, faire un déploiement, c'est quand même une action qui est simple, là, ultimement. Si vous avez un CICD, vous appuyez sur un bouton, le pipeline y part, puis ça vient mettre à jour les fichiers. Ou admettons que c'est sur un serveur IIS, vous venez faire la copie des fichiers via un FTP. Ce n'est pas une opération qui est complexe, mais c'est une opération qui reste critique. Donc, étape numéro 1, effectivement, on vient relayer la documentation pour prendre connaissance puis valider les périodes de mise en ligne possibles parce que ça va varier d'un client à l'autre. On a un client dans le transport que pour l'application que les camionneurs utilisent, il n'y a pas de réel temps pour le faire parce que des camionneurs, ça route 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de temps. Tandis que l'application pour les employés de bureau, ça va être vraiment sur les heures de midi ou en dehors des heures ouvrables pour éviter d'affecter, de créer un downtime pour eux. Ensuite de ça, vous pouvez relayer la documentation des déploiements de vos projets. T'sais, pour chacun des projets ici, bien, on a la documentation de comment est-ce qu'on déploie, puis avec une liste d'étapes là, rigoureuse là, qui nous permet de dire, OK, parfait, étape numéro 1, tu fais tes backups, étape numéro 2, tu copies tes fichiers, tu fais les transferts, tu arrêtes le serveur, ensuite de ça, tu recopies, etc., etc. Ensuite de ça, ça peut permettre de valider quelle est ta procédure de rollback, admettons que tu avais à rollbacker. Parce que, dépendamment des projets, ça peut être un peu différent. L'environnement de développement, si vous êtes Linux, Windows, si vous utilisez Rancher, si vous utilisez votre CICD sur GitLab, ça peut être un peu différent. Fait que juste s'assurer de quiconque qui embarque sur un déploiement est capable de faire un rollback si jamais il y avait quelconque problème par rapport à ça.
Et dernier point, je pense, qui est important sur cet aspect-là, c'est de valider si les chemins critiques ont été documentés. de s'assurer qu'on les a devant nous. Donc, si ça n'a pas déjà été fait, on le fait. Et il y a un point là-dedans, tu sais, de dire d'aller relire la documentation, mais c'est s'assurer d'avoir une documentation. C'est toujours le bout moins plaisant pour les développeurs ou l'équipe. Et souvent, c'est difficile de, à court terme, prouver la valeur de faire de la documentation, mais ça, c'est un des genres de cas qui est ultra important. Quels sont les chemins critiques, les critical paths à tester une fois que le déploiement est fait pour être certain qu'il n'y a pas un bris d'opération ou de fonctionnement dans le système, ou du moins pour les chemins critiques à aller tester là, un coup que c'est déployé au bout de la ligne. On passe au deuxième point, Olivier. Donc, le deuxième point, c'est valider la version. Peux-tu m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, ce point-là?
Oui, en fait, d'expérience, ça m'est arrivé une fois d'arriver et de déployer une version chez un client. Et le client, du moins, manque de communication avec mon PO à ce moment-là. Il fallait déployer seulement un élément. Fait qu'il fallait faire un petit cherry pick. Fait que déployer une feature. Par contre, j'ai pris l'entièreté de ce qu'on avait développé sur l'environnement de test et j'ai envoyé ça en production. Il n'y a pas eu de problème à ce moment-là parce que ça avait été bien testé, ça avait été bien fait. Oui, parce que je suis extraordinaire. Exactement. Mais malgré tout, ça crée un héritage chez le partenaire parce que, bon, eux autres, ils avaient prévu une session de formation avec leurs utilisateurs et là, c'était un nouveau module de recherche qu'on avait déployé. Fait que là, ça a un peu mis tout le monde sur le spot. Par contre, là, au courant du développement, on avait les power users avec qui on avait fait les démonstrations. Fait qu'ils étaient déjà au courant de comment ça allait fonctionner. Fait qu'ils ont pu s'arranger là, pour survivre sur un dizaine. Par contre, c'est vraiment pas l'idéal d'arriver avec le client puis faire oups. Tu sais, le hotfix que tu m'as demandé, ben, j'ai tout déployé finalement. Là, fait que c'est pas tout à fait le genre de choses qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, dans les pratiques, ben, on a nos releases, on envoie ça au client. Voici ce qu'on déploie à telle heure, à telle date. Fait que le client est au courant de qu'est-ce qui s'en vient, quand, puis comment est-ce qu'on va faire ça.
Puis c'est intéressant que tu donnes exactement cet exemple-là et que tu l'as vécu parce que, comme je dis, ça va faire bientôt 20 ans qu'on est en affaires et qu'on développe des logiciels. C'est beaucoup des apprentissages qu'on a fait parce qu'à la base, on se dit bah, « ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de problème » ou du moins, on ne pense pas que ça, c'est important. Finalement, ça l'arrive, on le rajoute dans nos checklists puis on s'assure d'éviter ce genre de problème-là par après. Et comme tu dis, c'est une mise en production. Si le pipeline est bien fait, qu'il y a en CICD et tout le reste, on pèse sur un bouton, c'est fait. Mais cette petite étape-là d'être certain qu'on déploie la bonne chose, qu'on s'est bien synchronisé avec le client, que le client est avisé à ce moment-là, voici telle heure, telle date, quelle fonctionnalité qui va être modifiée ou quelle nouvelle fonctionnalité qui va arriver ou quel bug va être corrigé. Ça a beaucoup de valeur pour le client. Puis si on est tous arrimés, pas tant mieux, mais c'est ce qu'il faut. Il faut être tous arrimés. Et s'il y a un petit décalage là-dessus, ça peut causer des gros problèmes. Dans ce cas-là, ça n'a pas causé d'énormes problèmes. C'était pas des bugs, mais ça crée de l'incertitude un petit peu puis du stress du côté utilisateur qu'on essaye d'éviter le plus possible. On passe au troisième point. Un point à rajouter, Olivier, là-dessus, avant qu'on passe au troisième point?
Non, mais je vais le plugger dans le point 3, vas-y. On en parle en même temps.
Fantastique. Donc, point numéro 3, confirmer que la date et l'heure du déploiement est optimale et approuvée par tous. Et entre parenthèses, on rajoute ici, éviter les déploiements le jeudi après-midi. Olivier, on t'écoute.
Oui, en fait, éviter le déploiement après jeudi après-midi, fait que ça inclut le vendredi et le vendredi à 4h30, juste avant de partir de « moi je déploie, tchao bye, je pars pour le week-end ». Et en fait, l'idéal, puis la raison derrière ça, c'est que si le partenaire n'a pas de ligne d'urgence ou n'a pas de service de plan de service étendu, si moi je déploie mon correctif le vendredi après-midi, je pars pour le week-end. Mais les activités continuent pour le client pour le week-end. Fait que s'il y a des bugs, il n'y aura pas d'équipe qui seront là pour répondre aux appels. Et c'est pourquoi on préfère déployer tôt dans la semaine. Fait qu'on priorise du lundi, mardi, mercredi. Jeudi, en avant-midi, on essaie de l'éviter. Mais si jamais il y a quelque chose, on préfère aviser le client comme quoi jeudi à AM, c'est le dernier temps idéal pour déployer. Ça nous laisse assez de temps pour survivre puis faire des correctifs. Admettons que les utilisateurs trouveraient des petites défaillances par rapport à ça. Donc, on vient s'entendre sur la date et l'heure qu'on fait le déploiement en production. Évidemment, c'est avec le client qu'on va regarder ça, les power users, puis on vient déterminer la date idéale pour ça.
Et Ça, faut tenir son point avec le client parce que c'est arrivé souvent que le client dit « Ben non, j'ai fait mes tests, on pousse ça vendredi, c'est important. » Puis on est là « Non, 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 non. » Et le client dit « Oui, finalement, on pousse ça. » Il n'avait pas fait ses expérimentations complètes. Finalement, il y a des cas de figure qui n'avaient pas été identifiés. Panique le vendredi, samedi, dimanche, panique le lundi. Et là, tout le monde a le fusil sur la tempe et ça cause beaucoup de stress pour tout le monde, pour l'équipe chez le client, pour l'équipe ici, pour les utilisateurs. Donc ça, il faut vraiment mettre notre pied à terre puis recadrer des fois les demandes des clients, dire non, 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 on ne déploie pas après jeudi après-midi. Et souvent, des fois, ça peut fâcher les clients, mais en réalité, c'est pour eux au final qu'on fait ça. Et c'est pas mieux si on déploie en panique le vendredi après-midi, qu'on met de la pression sur toute l'équipe de développement, que l'équipe de développement travaille toute la fin de semaine là-dessus et que le lundi matin, on a une démission d'un joueur important dans l'équipe parce qu'il se dit « moi, ça a impacté ma famille le week-end ». Personne ne gagne là-dedans au bout de la ligne. Là. Donc, ça, c'est un point là, vraiment important à faire attention là-dessus. Prévoir correctement les fenêtres de déploiement, mais aussi dans des zones où est-ce que ça va limiter le stress pour tout le monde.
Oui, évidemment. Puis, tu sais, petite nuance à apporter, ça va arriver qu'on déploie là, dans ces heures-là. C'est juste qu'on ne le recommande pas. C'est juste que nous, ça nous permet, mettons, de pouvoir, pour les hotfix, admettons, là, on va dire, écoute, il y a un bug, il y a vendredi matin. On va le déployer, là, c'est évident de ce côté-là. C'est juste pour les grandes mises en ligne là, de features pour un nouveau module, admettons, on préfère faire ça en début de semaine là, pour limiter les risques de ce côté-là.
Point numéro 4, avoir fait un déploiement sur les environnements de test, Olivier.
Ben oui, fait que pré-point 4, disons, c'est avoir des environnements de test, mais si...
bon point.
Ouais, à ce moment-là, fait qu'on envoie la fonction, les fonctionnalités, le nouveau module sur l'environnement de test du client, qu'on appelle le UAT ici à l'interne. Fait que l'objectif de ça, c'est d'avoir des données significatives pour faire les tests, là, parce qu'on a tout, on a l'environnement de QA pour les développeurs, que là, on entre du garbage data, on rentre n'importe quoi pour tester les limites. Mais là, après ça, on arrive dans l'environnement de UAT avec les vraies données du client, on va refaire les mêmes tests pour voir est-ce que nos tests étaient bons sur des données significatives et pas juste sur des données bidons, admettons. Ça nous permet aussi de faire la validation des scripts de base de données, là, les migrations, s'assurer que le retour en arrière avec ces scripts-là sont opérationnels. Là, fait que je parle d'un up et d'un down d'une migration. Là. Fait que, puis pour info, une migration, c'est un script qui va affecter la base de données. Fait que dans un cas où je dois rollbacker, ben, j'ai ajouté une nouvelle colonne, j'ai ajouté une nouvelle table dans ma base de données, ben, si je dois rollbacker, je dois retirer cette colonne-là, retirer cette table-là de mon déploiement, ce qui me permet de revenir à une version, la version initiale d'avant déploiement.
Point numéro 5, ça va l'air très simple, mais avoir un plan, ça a l'air stupide, mais
ouais.
Olivier, parle-nous de ça.
Oui, c'est un peu ce que je parlais en début d'enregistrement. Chacun de nos projets ont leur plan spécifique de déploiement. Là. Ce qu'on vous présente, là, c'est la documentation des grandes lignes, des bonnes pratiques de déploiement. Mais pour chacun de nos projets, bon, on a la documentation qui vient dire quelles sont les étapes pour faire le déploiement, quelles sont les étapes pour les rollbacks, quelles sont les étapes pour, admettons, faire des modifications sur les bases de données. Donc, tout ça est documenté dans une checklist. Le fait qu'on passe point par point, tous les développeurs, n'importe qui rentre sur le projet peut arriver puis faire un déploiement de ce côté-là sans trop de risques, là, mais on suggère tout de même d'avoir quelqu'un d'expérience qui a déjà fait des déploiements à ce sujet-là.
Point numéro 6 sur 10, ça recoupe un petit peu quelques éléments qu'on a parlé précédemment, mais c'est de tester sur l'environnement de production. Olivier.
Oui. Mais en fait, effectivement, là, une fois que tu as déployé, il faut que tu aies validé qu'est-ce que tu as envoyé en production. Fait que tu te connectes sur la production, fait que ça te prend un compte, là, fait qu'il faut s'assurer d'avoir le compte de test là, chez le client ou d'avoir quelconque information pour pouvoir se connecter à l'application. Et ensuite de ça, on va venir tester tout ce qu'on peut tester qui ne viendra pas impacter les données du client. Puis on va, fait qu'admettons, je n'irai pas créer un nouveau client dans la base de données moi-même parce que ça va venir mettre du garbage data dans sa base de données, chose qui n'est pas souhaitable. Par contre, on va venir tester vraiment tout ce qu'on peut, fait que tout ce qui est des features d'affichage, features de rapport, là, tout ce qui est la récupération de données, checker, voir dans l'application, est-ce que les modifications UX/UI qu'on a faites ont été apportées correctement.
Point numéro 7, ça serait d'avoir les logs serveurs, Sentry et la console de Chrome ou Firefox d'ouvert.
Oui, tout à fait. Fait que des fois, il y a des petites erreurs silencieuses qui se glissent. Fait que c'est pour ça que nous, on recommande d'avoir quelconque outil de log d'ouvert. Fait que pour tout ce qui est web, là, on ouvre les consoles Chrome et Firefox. On regarde, on se remet dans l'application. Il y a-t-il des erreurs JavaScript qui sont silencieuses, mais qui pourraient altérer le comportement plus tard là, dans des actions subséquentes. Aussi avoir les logs serveurs, là, fait qu'admettons que je suis sur un serveur Windows, ben j'ouvre le Event Viewer ou l'observateur d'événements. Et ça me permet de voir les actions que j'ai faites, est-ce que ça l'a planté à quelque part puis je ne l'aurais pas vu. Mais idéalement, ce qu'on vient implémenter, c'est un Sentry. Un Sentry qui est une application ou un third party qui permet de faire le tracking des erreurs dans les applications, que ce soit back-end, front-end, mobile. Donc, fait qu'il y a une belle interface, tu as un dashboard. Tu as des alertes là, dans votre courriel pour voir y a-t-il des bugs qui sont arrivés, y a-t-il des requêtes qui sont non performantes. Sentry peut même te cibler des commits qui peuvent dire je vois un nouveau bug, le commit peut être celui-là qui est problématique. Là, fait que là, je t'invite à regarder ça pour faire le correctif. Il y a des fonctionnalités encore plus poussées dans Sentry là, que je n'irai pas, mais c'est vraiment un excellent outil que nous on utilise là, qui nous permet de faire le tracking de tout ça.
Ça pourrait faire un bon épisode aussi à tourner sur qu'est-ce que Sentry, comment qu'on l'utilise, d'autres systèmes similaires à ça. Donc, je lance ça comme idée, mais je pense que ça pourrait être probablement un bon épisode. Si ça vous intéresse, venez m'écrire sur LinkedIn pour nous dire que ça pourrait être pertinent pour vous et vos équipes. Point numéro 8, il a l'air très anodin, mais mon Dieu, je pense qu'on a des bonnes anecdotes à travers le temps, c'est de confirmer le dénouement du déploiement. Et là, je parle d'une anecdote où, tu sais, ça peut arriver peut-être dans vos équipes, mais on déploie, mais on avise des fois pas personne que c'est fait, c'est complété. Et là, tout le monde se demande, c'est-tu terminé? C'est-tu fait? C'est-tu pas fait? Il y a des bugs, on n'est pas sûr que vous êtes encore dessus? Donc, Olivier, parle-nous de ça.
Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça, malheureux incident, là. Incident. Malheureux oubli. On déploie, tout va bien. C'est numéro un. Par contre, le client n'a pas été avisé et c'est un client qui déploie beaucoup d'efforts pour faire des tests sur la production une fois que le déploiement est complété. Donc, l'équipe était en attente tout ce temps-là. Manque de communication, puis malheureusement, la décision de rollbacker avait été prise parce que personne n'était en mesure de confirmer si tout était correct. Fait qu'il y a eu vraiment un manque de communication de ce côté-là, puis ça n'a vraiment pas été un déploiement agréable pour tous parce que, bon, on s'entend. Être dans l'attente, puis rien faire, puis perdre son temps, il n'y a personne qui aime ça. Puis en plus de ça, ça s'est terminé par un rollback parce qu'on n'était pas sûr du dénouement du déploiement.
Donc l'importance de publier après ça la version dans Jira, d'envoyer un courriel au client ou de l'appeler, de confirmer avec le PO aussi que c'est fait, puis que c'est prêt pour être testé en production. Je pense que tous ces éléments-là sont importants à travers tout ça dans la confirmation du dénouement du déploiement. Souvent, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va annoncer aux clients les durées de garantie ou tout message là, qui va venir pertinent avec la nouvelle fonctionnalité qui était déployée. Donc, il y a comme une communication qui est super importante à travers tout ça qui soit fait. Là, des gens qui font le déploiement au PO et le PO vers le client. Donc, il ne faut pas que ça tombe entre deux chaises. Sinon, ça peut causer des problèmes ou des irritants ou des dépassements de budget
à travers tout ça.
Un petit point à rajouter, Olivier, là-dessus?
Oui, c'est juste pour... C'est aussi la bonne nouvelle à dire « Hey, tout l'effort qui a été mis là, dans le développement et dans les tests, dans tout ce qui a été fait au préalable, c'est comme l'avènement de tout ça, fait que ce qui fait en sorte que c'est juste une bonne nouvelle à annoncer. OK, parfait, c'est déployé, tout est beau, ta nouvelle feature est en place, là, tu peux être content puis utiliser tout ça.
Et là, c'est déployé, les feux d'artifice sont partis, on avait dit que tout le monde que c'est fonctionnel, mais la job, notre travail ne s'arrête pas là. L'avant-dernier point, c'est de compléter la documentation. Olivier.
Puis ça va large, là, la documentation. Puis on a nos handbooks dans GitLab qui nous permettent de venir documenter notre processus de déploiement. Bien là, c'est le temps de venir compléter cette documentation-là. Est-ce qu'il y a des étapes à rajouter? Y a-t-il quelque chose à venir revalider par-dessus tout ça, etc.? Mais ça peut aussi aller dans GitLab. Assurez-vous que le release que vous avez créé est complet. S'il y a des notes à rajouter, c'est le temps de le faire. Dans Jira aussi, vous pouvez... aller gérer votre version. Fait que là, vous pouvez aller dire que c'est déployé, mettre vos notes de version, etc. aussi. Fait que c'est un peu tout ça qu'on va venir faire là, dans cette étape de documentation.
Et le dernier point, parle-nous de ça, Olivier. On parle d'utiliser les CI/CD de GitLab.
Oui, c'est sûr que celle-là elle n'est pas une étape en tant que telle, mais c'est en plus un bon conseil là, de la vie de tous les jours. Donc, un CI/CD, là, c'est un outil là, que l'équipe de DevOps ici nous crée à l'interne qui permet d'automatiser les déploiements. Fait que là, de prendre les fichiers, d'envoyer ça sur le serveur, ensuite de ça, bon, mettre à jour les packages, que ce soit les packages NuGet, les packages NPM ou Yarn. Et aussi, ça permet de venir gérer des migrations. Là, fait qu'il vient partir, ça vient s'automatiser, ça vient s'exécuter automatiquement. Là, fait que c'est juste une bonne pratique. Ça évite les erreurs humaines parce que dans un cas où on doit déployer, mettons, à bras avec un FTP ou dans un serveur IIS, ben, chaque étape est cruciale. Chaque fichier que tu supprimes ou que tu remplaces, ça peut être une erreur, etc. Fait qu'on recommande fortement d'utiliser les CI/CD, là, que ce soit dans GitLab ou autre.
Et on le met comme dixième point parce que ça peut arriver souvent qu'on va faire des déploiements manuels au début, mais quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de déploiements à faire ou si c'est du développement en continu ou de la maintenance en continu, bien, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va s'assurer de mettre ça en production plutôt de mettre en place là, un CI/CD de notre côté dans GitLab, comme tu dis, pour diminuer l'erreur humaine. On essaie d'être parfait, mais on est des humains. Hein. Des fois, on peut en échapper une de temps à autre. Plus qu'on l'automatise, plus que ça limite à ce moment-là les possibilités d'erreur et surtout, ça nous permet d'être plus efficaces dans le travail. Donc voilà, Olivier, un dernier point à rajouter pour clore ce podcast-là aujourd'hui?
Non, rien à rajouter. Là. On pourrait aussi rajouter là, les CI/CD. Voyez ça comme un tapis roulant. Là. Fait que les fonctionnalités, ça permet d'être qu'ils soient déployés plus rapidement. Là. Fait que tu mets la fonctionnalité, tu mets ça sur le tapis roulant du CI/CD, ça s'en va vers les environnements de test, on teste, ensuite on part à l'autre étape qui est de la production. Là. Fait que c'est vraiment le but, là, c'est d'automatiser le flow et que ça aille rapidement puis qu'on soit en mesure d'éviter les pertes de temps là, par rapport à ça.
J'aime beaucoup l'image que tu apportes du tapis roulant. Donc voilà, merci Olivier de ton partage aujourd'hui, de comment ça se passe chez nous à l'interne, chez OpenMind, Dev2CO et Legacy Recoding. Si vous avez d'autres bonnes pratiques que vous pensez qui pourraient être intéressantes à rajouter dans ce petit guide-là, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn. Notre but, c'est rassembler aussi un peu la connaissance de la communauté pour élever dans le fond l'expertise de tous et chacun. Donc n'hésitez pas à venir m'écrire sur LinkedIn, Jonathan Léveillé, et également... on produit ce contenu-là avec amour et de manière gratuite pour vous. Donc, en échange, on vous demande seulement une chose, mettez le podcast sur pause, prenez 17 secondes de votre temps pour aller mettre un 5 étoiles sur la plateforme de balado qui est préférée de votre côté et peut-être pour le partager aussi à quelqu'un que vous pensez que ça peut être bénéfique. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à continuer à travers le temps. Donc voilà, merci à tous d'être des nôtres et de nous écouter. Merci Olivier encore de ta participation cette semaine et tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt!